Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale fait le point sur les efforts déployés par les Nations Unies pour lutter contre le terrorisme. Et pour nous en parler, notre invité est le magistrat français Jean-Paul Laborde, chef de la direction exécutive du comité du Conseil de sécurité contre le terrorisme. Jean-Paul Laborde, bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Laborde, vous êtes donc sous-secrétaire général et surtout directeur exécutif de la direction exécutive du comité contre le terrorisme ou comité du contre-terrorisme. Alors aujourd'hui, donc, la lutte contre le terrorisme à l'ONU, c'est quelque chose qui est bien ancré. Où en sommes-nous aujourd'hui, donc, après toutes les résolutions qu'il y a eu, tous les efforts qui ont été entrepris depuis donc, la fin des années 90 pour lutter contre ce fléau?
Bon, d'abord, il faut être modeste. Le terrorisme, depuis la fin de la bipolarité du monde, a remplacé une sorte d'antagonisme qui existait à l'époque. Et maintenant, nous sommes dans une guerre qui ne veut pas dire son nom. Mais il n'empêche qu'on peut voir des résurgences d'opérations militaires maintenant, quand on parle du Mali, quand on parle de la Somalie, etc. Donc, où en sommes-nous? On pourrait penser qu'on a régressé compte tenu de l'expansion du terrorisme. Moi, je ne pense pas. Je pense que, d'abord, il y a une grande unification des États contre le terrorisme, grâce, certainement, à l'action des Nations Unies. La lutte contre le terrorisme est un des éléments clés de la stratégie pour la paix et la sécurité dans le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma direction exécutive est placée au sein du Conseil de sécurité. Ça ne veut pas dire que l'on envisage toutes les actions contre le terrorisme d'une manière répressive, et en particulier tout ce qui concerne l'éducation, le développement humain, les droits de l'homme, font partie de la lutte contre le terrorisme. Je sais bien quand je dis ça que je peux paraître un peu naïf, mais pourquoi se bat-on contre le terrorisme? On se bat pour des principes. Donc si on n'applique pas les principes dans la lutte contre le terrorisme, ça ne veut rien dire. Et c'est la raison pour laquelle l'ONU a toute sa place. D'abord par, effectivement, la coopération internationale que l'on doit avoir contre le terrorisme, qui n'est plus un phénomène national dans les pays du monde, mais qui est une nébuleuse composé certes de différents éléments, mais qui est une nébuleuse, donc qui nécessite une action internationale. Mais en second lieu, aussi le fait que les points de référence forts, comme ceux des Nations Unies, la Charte, le Pacte des droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, doivent être les éléments sur lesquels la lutte contre le terrorisme se fonde. Tous les pays membres des Nations Unies ont adhéré à la Charte, et la plupart des pays des Nations Unies ont adhéré au Pacte des droits civils et politiques. Alors, ça veut dire que ces fondamentaux, c'est-à-dire ces principes, sont ceux sur lesquels le monde actuel vit, et c'est la raison pour laquelle on combat le terrorisme.
Alors, vous avez cité certains États, vous parliez du Mali, de la Somalie, on pourrait parler également de l'Afghanistan et des
Bien
autres
sûr.
États qui sont connus depuis déjà une bonne décennie. Justement, sur le Mali et le Sahel, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que l'ONU fait pour essayer de venir à bout du fléau dans cette vaste région qui connaît donc des soubresauts particuliers depuis quelques mois?
D'abord, il a fallu que l'on fasse, et ça c'était le travail de la direction exécutive, il a fallu que l'on fasse l'évaluation de la menace et l'évaluation des besoins pour contrer la menace. Bien. Ça, c'est une chose qui a été faite et qui est tenue à jour par notre maison. Ensuite, on peut voir que le département des opérations de maintien de la paix, DIPIKEO, a effectivement une portion de son travail qui est relatif à cette lutte contre le terrorisme et à la mise en place des outils civils de lutte contre le terrorisme. Troisièmement, je crois que maintenant, les forces qui soutiennent l'effort contre le terrorisme au Mali savent très bien que la question d'amener les terroristes devant la justice, comme c'est prévu par la résolution 1373 du Conseil de sécurité, est un des points majeurs qu'il va falloir mettre en œuvre sous peu.
Alors justement, est-ce que ce sont des points qui ont pu être rappelés, sur lesquels on a pu mettre un accent particulier lors du récent débat général de l'Assemblée générale, avec notamment la présence de nombreux chefs d'État de la région?
Oui, ça a été mis en exergue. J'avais rencontré quelques jours avant Romano Prodi, le représentant spécial du secrétaire général pour le Sahel. J'ai rencontré plusieurs chefs d'État à l'occasion du débat général auquel j'ai pu assister. Et tout le monde insiste sur les éléments que je viens de vous indiquer. La coopération régionale est extrêmement importante et elle est fédérée vraiment à travers d'abord la volonté des États, mais aussi le fait que les Nations Unies sur cette région sont présentes. Et ma direction exécutive donne déjà et donnera encore dire, d'un soutien très ferme à la mise en place des outils qui vont suivre les opérations militaires, en particulier les institutions qui doivent travailler sur le terrorisme. Il y a un élément dont je veux parler aussi, et qui est aussi un élément très important, c'est l'éducation. On ne peut pas voir simplement que les questions de répression. L'éducation fait partie, ce qui est absolument extraordinaire, des priorités du Conseil de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme, puisque la lutte contre l'extrémisme violent a été bien affirmée comme une des priorités du Conseil à travers la résolution 1624 du Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, jeudi prochain, le Comité contre le terrorisme a invité, à ma demande, Tony Blair, l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, en sa qualité de président de la Fondation Tony Blair, à venir parler de l'éducation pour contrer l'extrémisme violent. C'est un élément, certes, important, mais il faut le mettre en place vraiment dans les pays avec l'assistance de l'UNESCO, du PNUD et d'autres éléments. On ne peut pas lutter contre le terrorisme d'une manière segmentée. Et je me souviens qu'à l'époque où je travaillais sur la stratégie contre le terrorisme, je disais toujours qu'il faut lutter contre les conditions propices à la propagation du terrorisme, qui est le pilier numéro un de la stratégie adoptée par l'Assemblée générale et qui est en parfaite relation avec la résolution 1624 du Conseil de sécurité. Mais j'insiste sur cette question d'éducation. Les jeunes doivent être éduqués dans une culture de paix et de non-violence qui, à mon sens, est la seule manière pour... Je dirais semer pour l'avenir.
Alors justement, donc, on sait que vos actions visent notamment les gouvernements. Vous parliez de coopération régionale renforcée, vous parliez de sensibilisation. Pour l'éducation, est-ce que ça veut dire que c'est une sorte d'instruction civique améliorée? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aussi marcher de concert avec tous les efforts, notamment en matière de dialogue des civilisations?
Bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les petits qu'il faut éduquer. Hein. Je croyais aussi les grands, si j'ose dire, les adultes. Je crois que... La réflexion commence par une culture de tolérance, l'alliance des civilisations, et puis effectivement mettre dans les programmes scolaires des éléments pour le respect de la personne, pour le respect des autres cultures, etc. Ça, c'est très important. Sinon, comment voulez-vous que les gens puissent réaliser ce genre de choses? Tout doit être une occasion de lutter contre, je dirais, cet extrémisme violent, y compris d'ailleurs... Bon, il y avait un débat au Conseil de sécurité il y a quelques jours sur le respect des femmes. Je pense que ça aussi, c'est une chose qui fait partie de la politique des Nations Unies. Et je dois dire que peut-être que nous, on n'a pas assez travaillé encore sur la question de l'éducation par rapport aux femmes, parce que c'est certainement un point d'ancrage extrêmement important pour l'éducation des enfants et pour amener une culture de paix à la place de la culture de violence.
Est-ce que pour les populations qui sont concernées aujourd'hui, on parle du Sahel, on parle de la Somalie, on parle de l'Afghanistan et il y aurait d'autres pays, est-ce que pour les populations qui aujourd'hui demandent des résultats immédiats, l'éducation c'est un investissement à long terme, pour aujourd'hui lutter contre ces criminalités organisées, parce qu'il y a aussi des liens entre donc, ces entreprises criminelles et des terroristes, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour réduire de façon conséquente les méfaits donc, des terroristes?
Je vous ai parlé d'actions à moyen et long terme. Il y en a d'autres, d'ailleurs, que je n'ai pas citées. L'état de droit, qui est une des actions les plus importantes, la mise en place de l'état de droit, la mise en place de structures étatiques correctes et qui ne seraient pas coercitives au sens d'une action trop prégnante sur la population. Donc, tout ça est à mettre en balance. L'action des médias, la liberté de la presse, mais aussi l'action des médias en tant que telle. Tout ça, ce sont des mesures à moyen et à long terme. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? D'abord, on fait à court terme. À travers les résolutions du Conseil de sécurité, l'opération Serval est une opération qui est là, qui est présente. Bien. On ne fait sûrement pas suffisamment dans d'autres parties du monde, certes, mais la communauté internationale doit aussi penser à une autre portion de l'action immédiate. Et c'est probablement ce que demandent les populations. Il faut réfléchir à l'action humanitaire, parce que les confrontations, qu'elles soient avec des organisations terroristes ou avec d'autres types d'organisations, provoquent des désastres humanitaires. Alors, voilà-t-il pas que maintenant, il faut aussi réfléchir au fait que l'action humanitaire pourrait éventuellement être entravée par le fait que les humanitaires doivent dialoguer avec les organisations terroristes pour arriver à donner des subsides alimentaires aux populations. Je n'ai pas de réponse précise, mais en tout cas, il va falloir, et ça c'est un élément extrêmement important, que les ONUsiens, nous les ONUsiens, nous sachions travailler cette question pour que, au moins sur le plan humanitaire, ces actions contre le terrorisme ou ces actions terroristes en premier lieu ne se transforment pas en désastre humanitaire, ce qui est aussi notre responsabilité mondiale.
Dernière question sur l'image et l'éducation. On le sait parfois, et même quand on se retourne et qu'on regarde l'histoire, certains groupes de résistance ou de libération ont été parfois qualifiés de terroristes. On pense par exemple en France, y compris la résistance et ses leaders, y compris le général de Gaulle qui est devenu ensuite donc chef de l'État, ont été traités de terroristes et jugés en tant que tels. Est-ce qu'aujourd'hui également, il n'y a pas un travail à faire justement pour lutter contre l'apologie du crime et toute cette image finalement de Robin des Bois ou de libérateur qui est parfois aussi est associé?
Si, on doit lutter. Il y a deux éléments là-dessus. Il y a l'élément juridique. De nombreuses législations dans le monde comprennent ces éléments d'apologie du crime. Il y a d'une part l'apologie du crime, d'ailleurs, et d'autre part la provocation à la haine raciale, parce qu'il y a aussi les deux éléments sur lesquels il faut travailler. Bien. Oui, le général de Gaulle, je dirais même nos parents, ont été traités de terroristes, en tout cas ceux qui étaient dans la résistance, c'était le cas pour les miens. Et donc, si vous voulez, il faut bien distinguer, et on l'a toujours distingué, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et puis l'action terroriste. Mais les Nations Unies sont assez bien équipées quant à la définition des actes de terrorisme tels qu'ils sont définis dans les différentes conventions sectorielles. On arrivera peut-être au bout un jour avec la convention globale, mais on a déjà un équipement qui n'est pas si mal que ça. Donc, je crois que l'apologie du crime, la provocation à la haine raciale sont deux éléments qui sont extrêmement importants. Ceci étant, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il faut manier aussi ces éléments avec précaution pour que ça ne soit pas des éléments de contrainte contre la liberté de la presse. Donc, tout ça, ce sont des mesures à long terme ou à moyen terme qui sont difficiles parce que ça veut dire que quand on est des partisans de l'état de droit, quand on est des promoteurs, je dirais même pas des partisans, puisque ça fait partie de notre charte, de l'état de droit, de la liberté de la presse, de tout ce qui fait nos valeurs actuelles, il faut accepter aussi ce qui est encore plus dur, mais c'est arrivé aussi dans nos familles, dans la mienne comme dans la vôtre, je suppose. Il faut accepter aussi que de temps en temps, malheureusement, nous ayons des pertes humaines parmi les gens qui défendent ces idées. C'est clair qu'on va l'avoir. C'est pour ça que deux journalistes ont été tués au Mali, et tout en m'inclinant devant leur dépouille et puis aussi devant la peine de leur famille. Ça veut dire que nous aurons encore des pertes, que nous n'avons pas fini avec cette histoire du terrorisme, mais qu'il faut rester debout, que la presse doit continuer son travail, que les magistrats, les policiers, les gendarmes, les éducateurs doivent continuer leur travail, malheureusement souvent au prix de leur vie, mais ou quelquefois en tout cas, si ce n'est pas souvent. Et ça veut dire que c'est aussi la défense de nos valeurs qui passe par des phases extrêmement dures pour nous. La société moderne est une société réactive dans laquelle on n'aime pas avoir affaire, et c'est normal qu'on n'aime pas avoir affaire à ce genre de réaction très dure. Mais malheureusement, nous sommes dans une société qui est difficile, dans un monde où l'intolérance, comme vous l'avez dit, reste un problème très grave. Donc nous continuerons à avoir, je l'espère le moins possible, mais bien sûr, mais nous continuerons à avoir des victimes devant lesquelles il faudra toujours se recueillir et devant lesquelles on devra toujours reconnaître le courage pour ce qu'elles ont fait, ou bien, lorsqu'elles sont otages, pour les souffrances qu'elles endurent, alors qu'elles n'étaient pas du tout préparées à ce genre de souffrances.
Jean-Paul Laborde, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme. Voilà, et c'est avec ce tour d'horizon des efforts de l'ONU contre le terrorisme que se referme ce magazine. Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la complicité de Rebecca Moudiot. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.